Loup. Dans cette édition, on vous parle de ce recours déposé par les autonomistes contre deux textes adoptés par la majorité à l'Assemblée. On suit aussi ses défaillances au port de pêche et on vous parle emploi dans l'hôtellerie. Le journal avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Yorana Damien, bonjour à toutes et à tous.
Les partis autonomistes ont déposé deux recours en Conseil d'État.
Oui, ces recours du Tapura et de Aireia Polinetsia qui concernent deux textes adoptés lors de la dernière séance de la session budgétaire. Alors le premier, déposé le 29 décembre, porte sur la loi fiscale que les deux partis estiment anti-économique et antisociale sur le fond et irrégulière sur la forme. Lors de son premier passage en commission le 21 novembre, le texte avait été vivement critiqué tant par l'opposition que par la majorité Tavigny elle-même. Il avait ensuite été amendé. Une dizaine de jours plus tard, le gouvernement avait présenté à nouveau le même texte sans tenir compte des modifications. Et le président de l'Assemblée l'avait autorisé à refaire une séance de commission dont les élus autonomistes étaient rapidement sortis, tout comme ils sont sortis de l'hémicycle le jour J sans participer au vote. Le second recours, lui, a été déposé le 9 janvier. Il concerne le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée qui, pour la fraîchement créée commission spéciale sur la décolonisation, permet notamment à son président Tony Géros de conduire les travaux à huis clos et de restreindre la diffusion des comptes rendus à ses seuls membres. Une gestion clanique et une volonté de limiter l'accès à l'information de la représentation élue, c'est ce que dénonce Nicole Sanquer, la présidente de Aireia Polinetsia, pour qui, je cite, « la multiplication de telles dérives et irrégularités nécessitait qu'une action juridique soit initiée avec force afin d'éviter que ces pratiques répréhensibles ne se répètent et ne deviennent une généralité pour une majorité forte en nombre, mais à l'évidence son mal d'unité, de vision et de projet. » Fin de citation.
Ça craque dans l'administration.
Oui, la directrice générale des ressources humaines, Marine Noguier, a démissionné et quittera son poste le 8 février. Revenue au Fénois après des débuts chez Chanel, elle avait passé 4 ans aux ressources humaines de la CPS avant de prendre la tête de la DGRH en août 2021. Motif de sa démission, le manque d'avancée sur le nouveau schéma directeur qu'elle avait élaboré et qu'elle estime toujours indispensable pour rendre le service public attrayant et efficace. Ce n'est pas le seul revers infligé à Vanina Krolas en charge de la fonction publique, puisque la directrice et la chef de cabinet de la ministre ont elles aussi démissionné.
On revient maintenant sur les négociations qui ont lieu hier après le préavis de grève déposé à Gaz de Tahiti.
Mais oui, grève du gaz ou pas, eh bien à l'heure actuelle, aucun accord n'a été signé entre la CSIP, l'Union des hydrocarbures de Polynésie et la société Gaz de Tahiti, qui est sous le coup d'un préavis depuis vendredi. Hier, les parties prenantes se sont retrouvées dans les locaux de la société pour un premier échange qui s'est déroulé de manière assez cordiale. Des discussions qui interviennent après la surprise du préavis tombé vendredi dernier à croire Laura Siou, chargée des ressources humaines chez Gaz de Tahiti.
Le dépôt de préavis vendredi dernier nous a énormément surpris puisqu'on sortait en fait d'une période de fête apaisée. On a pendant toute l'année 2023 tenu des réunions mensuelles avec le personnel. Donc c'était très surprenant. On est disposé à discuter, également dans le dialogue et à l'écoute, à la recherche d'éléments de compréhension également.
Et de son côté, Judith Siou, la secrétaire générale du groupe Gaz de Tahiti, est du même avis. Elle précise qu'une grève, c'est avant tout une rupture de dialogue, un désaccord sur des points qui ont forcément été évoqués, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, selon elle. Alors, parmi les 12 doléances du préavis, on retrouve également des points qui concernent la convention collective gazière, dont la dernière version date de 2014. La direction a expliqué qu'elle refuse de les négocier sous la pression, ajoutant qu'à l'époque de la dernière révision, il s'agissait d'un accord global où chacun avait mis du sien. Alors que là, je cite, ils veulent juste augmenter les primes. Fin de citation. Joint par téléphone après s'être éclipsé en évitant les médias dès la fin des débats, le délégué CSIP se veut de son côté rassurant, mais attend les négociations prévues aujourd'hui pour se positionner. Dans tous les cas, les responsables syndicaux se défendent de vouloir apporter ainsi leur soutien aux travailleurs des hydrocarbures, dont la grève dure depuis bientôt un mois. D'ailleurs, de ce côté-là, si certaines sociétés travaillent en ce moment sur des points de revendication spécifiques à leur entreprise, aucune réunion globale ne semble encore à l'ordre du jour pour sortir du conflit qui inquiète les îles éloignées.
7h04, la CTC a le port de pêche dans son viseur.
Oui, la Chambre territoriale des comptes qui publie son rapport sur la société de pêche du port de Papeete sur la période 2017-2021. La gouvernance, la situation financière, les modalités d'exploitation et les perspectives d'avenir sont ainsi passées au crible. Et plusieurs pages de ce rapport épinglent des irrégularités constatées autour de la vente de glace qui représente près de 30% du chiffre d'affaires de la S3P. Alertée par les faibles encaissements au regard du flux de passage enregistré, une enquête avait avait été menée durant 2 semaines au mois de mars 2022 et elle avait permis de mettre en avant que le nombre de factures quotidiennes était bien inférieur au nombre de clients comptabilisés lors d'un contrôle par vidéosurveillance. Ainsi, sur 189 clients recensés durant 11 jours de travail, seules 101 factures ont été émises, soit 53% de taux de facturation. La S3P n'a pas toutefois été en mesure de communiquer le montant des pertes estimées, c'est ce qu'indique le rapport de la CTC. La direction du port de pêche a en revanche reconnu que soit les agents ne facturaient pas l'ensemble des clients, soit les fonds avaient été détournés. La direction, qui ne disposait que de faisceaux d'indices mais pas de preuves matérielles à l'époque, a donc incité 2 employés au port depuis 20 ans à démissionner.
Mais ce n'est pas tout.
Oui, puisque la société du port de pêche a également été victime d'une comptable remplaçante qui a détourné des recettes de la société durant 5 mois entre 2018 et 2019 pour un montant de 1,9 million. Reconnue coupable par la justice, interdite de profession pour 5 ans, elle n'a pas respecté le remboursement étalé de la dette et n'a reversé à ce jour que 15 000 francs. La CTC recommande donc la mise en place de contrôles internes systématiques.
Un tour à Bora Bora où 230 emplois sont à pourvoir.
Et oui, à quelques mois de sa réouverture sous l'ancienne Westin, l'ancien hôtel Méridien lance sa phase de recrutement. Après travaux, la structure qui accueillera surtout une clientèle américaine proposera 142 bungalows à ses clients et son ouverture est prévue vers la mi-2024. Alors pour assurer les prestations, la direction recherche 230 personnes dont au moins 70% de locaux. Ce sont ainsi près de 40 postes supplémentaires que sous l'ancienne dénomination. Et si une expérience dans le domaine du tourisme est évidemment appréciée, elle ne reste pas un critère déterminant. C'est ce que nous expliquait Minnie Maubois, elle est responsable des ressources humaines.
Notre objectif aussi, c'est de pouvoir former les collaborateurs au métier de l'hôtellerie. Donc si on voit qu'il y a une appétence, une réelle motivation de la part du candidat et qu'il se démarque au niveau de son visage, de son comportement, des personnes souriantes, bienveillantes, qui puissent faire plaisir à notre clientèle. L'emploi local, c'est très important. Là où on peut avoir une difficulté, c'est que la quasi-totalité de nos emplois demande tout de même d'avoir une bonne connaissance de l'anglais.
Tous les métiers de l'hôtellerie sont d'ailleurs concernés, du service restauration à la maintenance, en passant par la cuisine, le spa, le housekeeping et la réception. Et pour trouver ses futurs collaborateurs, un job dating est donc organisé à Bora, mardi 16 janvier de 10h à 15h30 dans la salle de réunion de Veille Tapée. Un autre pourrait éventuellement avoir lieu à Tahiti.
Retour à Tahiti justement, avec ses modifications de circulation sous le pont de la Punaru.
Oui, le pont fait peau neuve avec des travaux de peinture qui ont débuté depuis octobre, sans incidence pour le moment sur la circulation. Mais attention, ça va donc changer à partir de lundi puisque les travaux entrent dans une nouvelle phase, celle du remplacement des appuis du pont. En conséquence, des modifications de circulation sont à prévoir sous l'ouvrage, à savoir au niveau du rond-point de la Punaru, où la circulation va être réduite à une voie. D'abord côté Papeete la semaine prochaine, puis côté Paea la semaine suivante.
Un mot de sport avec Irateri Natoofa qui est en train de vivre quelque chose de fou.
Oui, c'est ce que dit l'entraîneur de l'équipe de France de surf. Il a été désigné par Paris 2024 comme étant le capitaine du relais olympique lors du passage de la flamme au Fénois. Ce sera le 13 juin prochain. Écoutez.
Là, de tenir la flamme, c'est encore quelque chose de fou. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Je suis quand même assez ému. Pour le moment, je n'ai pas encore eu d'informations réellement sur l'organisation de comment gérer la flamme et du réel parcours. Les petites informations que j'ai eues, c'est que je dois la transporter du spot de Chopo, de là où se passe l'événement, sur la pointe de Chopo et directement jusqu'à la stèle.
Et au total, 24 personnes porteront la flamme lors de son passage en Polynésie. Mais Irateri Natoofa n'a pas voulu nous en dire plus pour l'instant.
Et on termine avec cette histoire, celle de Grégory qui a retrouvé Réjeanne, ça y est.
Et oui, on vous parlait de Grégory la semaine dernière. Alors il y a près de 25 ans, souvenez-vous, alors qu'il n'avait que 12 ans, il avait lancé depuis le sud de la France un ballon qui portait son nom et son adresse, et un ballon qui avait été retrouvé à Tahiti par une certaine Réjeanne. Elle lui avait alors répondu, mais Grégory était trop timide pour lui répondre à son tour à l'époque. Et le garçon a finalement attendu d'être devenu grand, 25 ans plus tard, pour se mettre à sa recherche. Et c'est ainsi qu'il avait passé un appel aux médias locaux. Et on a donc retrouvé Réjeanne. Il s'agit d'une métropolitaine qui était rentrée chez elle après un séjour d'un an à Tahiti. C'est avec sa mère qui lui rendait visite au Fénois qu'elle avait alors trouvé ce ballon. Et elle a gardé des amis ici et l'un d'entre eux lui a appris qu'elle était recherchée.
Il me dit, regarde, il y a ça qui passe là, c'est toi. Je lui dis, mais carrément, c'est l'histoire de ma mère. Et puis en plus, elle est décédée là. Et enfin, moi, j'y vois plein de messages aussi. C'est vraiment fort cette histoire. Quoi.
Réjeanne a donc contacté Grégory 23 ans après, mais ce n'était pas la seule surprise, on écoute le garçon.
Elle vit en France et elle habite à 5 km de chez moi. On s'est vu 20 minutes après qu'elle m'ait appelé, sa maman était venue. Elle lui a dit, mais regarde ce que j'ai trouvé dans le jardin. Elle a dit, c'est un petit garçon qui s'appelle Grégory et qui habite à Sorgue. Sa maman lui a dit, mais oui, mais Sorgue, c'est à côté de chez nous. Et le pire dingue de tout ça, c'est que Réjeanne a des cousins à qui j'achetais des ballons depuis que j'étais enfant. Il les vendait sur des foires ou des fêtes différentes. Et c'est à lui que j'achetais les ballons.
Voilà, une histoire qui finit bien et qui vient s'ajouter aux nombreux récits de ballons qui font de grands voyages. Un métropole tahitien n'était d'ailleurs pas loin du record, hein, le record officiel qui a été établi entre la Grande-Bretagne et l'Australie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 7h30 pour votre revue de presse d'actualité locale.
Merci Valdemar, à tout à l'heure.